Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette extraordinaire série concernant le psaume 51. Oui, c'est probablement un des plus difficiles et des plus complets au sujet de comprendre ce que veut dire notre péché. Nous arrivons à l'étude numéro 2 et je crois que je dois me moucher avant. Excusez-moi. J'aurais dû faire cela avant. Oui, excusez-moi. Mais, chers amis, il serait une erreur de supposer que Dieu aime les pécheurs. Ce serait une erreur de comprendre ça de cette façon-là. Deuxièmement, quels sont les pécheurs que Dieu haït et dont les prières sont inutiles? Avez-vous bien compris ce que je viens de dire? Il faut faire attention et distinguer entre un pécheur qui sent et qui déteste ses péchés, et un pécheur qui ne sent et qui ne déteste point ses péchés. Ce sont les prières des pécheurs qui ne sentent point le péché que Dieu rejette, parce qu'ils n'entendent point et ne savent point ce qu'ils disent. Un moine, une carmélite, par exemple, ou une personne dont la confiance en son état et dans la sécurité priera et chantera souvent ce psaume et dira souvent « Aie pitié de moi ». Mais parce qu'il vit dans la confiance uniquement en sa propre justice, et qu'il ne sent point l'impureté de son cœur, il en prononce bien les syllabes, mais il n'entend et ne désigne point la chose même dans la réalité. Bien plus, il agit contrairement à sa prière, il demande pardon, il demande grâce et miséricorde, et pourtant, d'un autre côté, il cherche son appui et sa consolation, tantôt en ceci, tantôt en cela. Il cherche donc des expiations et des satisfactions dans ses propres œuvres et dans son culte extérieur. N'est-ce pas là se moquer un peu de Dieu? De même, si un mendiant criait à pleine bouche qu'on lui donne une aumône, et que lorsque on voudrait la lui donner, il se dit assez riche et se vante même de sa pauvreté comme de grande richesse, ne témoignerait-il pas, par là, je vous le demande, qu'il ne cherche pas sérieusement une aumône et qu'il n'a pas besoin du secours de celui à qui il s'adresse. Ainsi, les ennemis et les contempteurs de l'Évangile ont beaucoup de belles paroles, mais ils ne possèdent rien de la réalité, bien au contraire. Ils font des choses qui lui sont tout à fait opposés en inventant et en cherchant plusieurs cultes extérieurs, en cherchant la rémission de leurs péchés dans leurs messes, dans leurs pèlerinages et dans d'autres choses inutiles. Endurcis dans leurs péchés, en se justifiant en plus devant Dieu et persécutant la vérité et ceux qui les reprennent, c'est à ces pécheurs-là qu'il faut faire sentir qu'ils ne sont point les objets de la miséricorde, mais plutôt de la colère de Dieu. Il faut leur annoncer les peines éternelles que leurs péchés méritent et desquelles Dieu menace les pécheurs dans sa parole, selon que le deuxième commandement le déclare. Ce deuxième commandement dit « Je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, en la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Il faut aussi leur représenter les exemples de la colère de Dieu, comme la destruction de Sodome, comme le déluge universel sur toute chair, la triste désolation du peuple d'Israël, qui était pourtant le peuple saint, et d'autres témoignages de la colère de Dieu sur les pécheurs impénitents qui ne demandent jamais de se repentir, qui nous sont marqués dans la sainte parole de Dieu, afin que s'il est possible, ces pécheurs insensibles, il faut bien le dire, en plus endurcis, et impénitents soient amenés à la connaissance d'eux-mêmes et qu'ils commencent sérieusement à implorer la miséricorde, car ce sont de tels pécheurs, on peut dire, qui ne se repentent jamais, desquels la parole de Dieu dit que Dieu haït, que Dieu les hait, que Dieu n'écoute point ces pécheurs-là. Mais pour les pécheurs qui sentent leur péché et qui sentent la colère de Dieu et qui sont épouvantés de sa présence, ceux-là, sans qu'on les y porte, sont par trop enclins à s'appliquer toutes les menaces de Dieu proposées dans sa parole contre les pécheurs et à se juger digne des effets que cette colère a répandus sur les exemples de punition qu'ils y voient. C'est ce qui les abat, ce qui les afflige et ce qui les fait trembler et craindre le même sort que ces pécheurs ont subi. Quand donc une âme est ainsi brisée par le marteau de la loi, dans l'appréhension du jugement de Dieu, alors c'est le temps et c'est là l'état dans lequel elle doit apprendre cette divine sagesse de l'Esprit de Dieu qui lui propose la miséricorde de Dieu, qui relève et console son cœur abattu et qui lui apprend et le convainc que les pécheurs, qui sont les objets de la colère de Dieu, ne sont point ceux qui sentent le péché et qui le détestent, mais seulement ceux qui ne le sentent point et qui ne le détestent point, mais que pour ceux qui sont travaillés et comme accablés de l'insupportable fardeau de leur péché, ils doivent écouter cette voix qui leur dit que le bon plaisir de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Je répète, le bon plaisir de l'Éternel se trouve sur ceux qui le craignent. Oui, chers amis, le bon plaisir de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, que Dieu ne rejette point un cœur froissé et qui est brisé, que ses oreilles sont attentives et ses yeux sont ouverts sur les pauvres afin de les retirer de la fiente et que enfin Dieu ne brise point le roseau cassé et n'éteint point le luminon fumant. Car ce sont ces âmes-là, oui, qui sont de faibles vermisseaux, on peut bien le dire, ces faibles vermisseaux de Jacob, et ces tendres fleurs qui sont ébranlées et qui tremblent au moindre vent de menace et de colère qui vient à souffler. Au lieu que ces autres pécheurs insensibles demeurent immuables et sans être touchés, comme des montagnes de fer, au milieu même des plus grandes tempêtes, et même lorsque on les appelle le plus fortement à la repentance. Une chose donc que des consciences affligées et épouvantées de la vue de leurs péchés doivent faire, c'est de ne point juger de leur état selon que ces sentiments pourraient leur suggérer, car elles s'enfonceraient par là dans le désespoir. Mais comme à de diverses maladies, il faut aussi appliquer de différents remèdes. Ainsi, il faut relever et consoler ces âmes qui sont abattues par des promesses de grâce, comme il faut tâcher d'abattre et de briser les impénitents avec un sceptre de fer. C'est donc ici ce que enseigne la véritable et la divine théologie, savoir que quand les âmes sont ainsi affligées, alors une partie de la théologie, qui est la loi, est accomplie dans l'office est de mener et de condamner le pécheur, afin qu'il commence à se connaître et qu'il dépose cette malheureuse sécurité dans laquelle nous vivons tous, avant que la manifestation de cette colère se fasse vivement sentir en nous. Voilà donc la première partie de la théologie. Mais il n'en faut pas demeurer là. Il faut passer à la seconde qui nous apprend que toute la théologie est consommée en ceci, de nous convaincre et de nous enseigner que Dieu fait grâce aux humbles et que toutes les menaces sont pour les pécheurs endurcis et qui vivent dans la sécurité et que c'est pour cela seulement qu'il est un Dieu vengeur et un feu consumant, mais que, au contraire, ces pécheurs contrits et épouvantés, ce sont eux le peuple de la grâce et de la miséricorde, c'est-à-dire à qui la grâce et la miséricorde appartiennent dès que le bon berger vient bander et guérir les plaies parce qu'il a mis sa vie pour eux, de sorte que de tels pécheurs repentants ne doivent point donner cours aux pensées de leur cœur incrédule qui voudrait les détourner de la prière et de la confiance par le sentiment du péché, mais il faut qu'avec David, il crie avec assurance « Ô Dieu !» aie pitié de moi, car c'est en ces âmes-là que Dieu prend son plaisir. Voici donc une théologie bien inconnue dans les écoles de nos adversaires. Voyez comment David s'écrie devant son Dieu à pleine bouche. « Ô Dieu, aie pitié de moi !» Comme il joint ensemble des choses infiniment contraires de leur nature. Dieu et lui, homme pécheur, le juste avec l'injuste, il franchit, pour ainsi dire, la haute et horrible montagne de la colère de Dieu, qui sépare Dieu de l'homme pécheur. Il la franchit par la confiance en la miséricorde de ce Dieu et ose dans cette confiance se joindre avec Dieu. Et c'est là ce que notre théologie nous apprend qu'il faut joindre à la loi, car de nommer un Dieu et de lui dire d'avoir pitié, il n'y a pas en cela beaucoup de peine. Mais d'ajouter ces mots de « moi », c'est ce qui ne s'apprend que par la doctrine évangélique et que nous savons être fort difficile à une âme qui est dans le combat, car ces mots « de moi » qui comprennent toute la masse de notre indignité sont ce qui empêche le plus fortement nos prières, au lieu que c'est ce qui devrait nous pousser à la prière. Il faut donc apprendre, dans cet exemple de David, cette première chose nécessaire, que ces mots « de moi » signifient le pécheur qui est affligé et qui est sensible à ses péchés, comme David, s'explique ensuite beaucoup plus clairement quand il dit « J'ai été conçu en iniquité et ma mère m'a échauffé dans le péché. » C'est en ces paroles qu'il montre que par ces mots de moi, il entendait un grand et misérable pécheur, avec David apprenant aussi à refréner et à combattre ces volées de pensée qui veulent nous empêcher de prier, et bien loin de nous laisser vaincre par elles, servons-nous donc en comme aiguillon pour nous pousser carrément à Dieu et pour nous faire crier après lui avec beaucoup plus de force, comme il est dit de cet aveugle de l'Évangile, que quoique ceux qui allaient devant criaient encore plus fort, ainsi les différentes pensées qui s'élevaient en nous à la vue de notre indignité sont comme des troupes qui nous tensent et qui nous disent « Que veux-tu prier ? Ça sert à rien. Ignores-tu ce que tu es et ce que est Dieu ?» Un malheureux pécheur devant un Dieu vengeur du péché. Ah oui, sans doute que ces pensées sont incomparablement affligeantes et douloureuses à une âme et qu'elle en détourne plusieurs de la prière. Mais il faut prendre la résolution de les mépriser et la raison par laquelle elles veulent nous décourager, qui est notre misère et notre indignité, doit nous porter d'autant plus fortement à la prière, de sorte que perçant et fendant cette foule, nous pénétrions jusqu'à Jésus et lui demandions grâce et miséricorde. Les âmes qui combattent ainsi sont celles qui prient bien. Mais en vérité, il faut une grande violence et un travail douloureux de l'esprit pour cela, car j'ai souvent éprouvé moi-même que ces pensées m'ont souvent détourné de la prière, mais par la grâce de Dieu, j'en suis parvenu là que, connaissant ces dards enflammés de Satan, je ne leur cède plus, mais que par la force de l'Esprit Saint, je me sers des armes de mon ennemi pour le combattre et pour le vaincre, en lui disant: tu penses me détourner de la prière parce que je suis un indigne pécheur, mais c'est par cela même que je vois que j'ai besoin vraiment de prier, parce que je sens que je suis un grand pécheur et que j'ai besoin de la grâce et de la miséricorde divine. Voyez-vous, il faut faire la même chose quand on sent son âme attachée par les tentations et par les mouvements de l'impureté ou de l'esprit de vengeance. Car si dans cet état-là, l'Esprit de Dieu vient nous exhorter à la prière, d'abord notre conscience nous reproche nos impuretés et Satan nous veut faire croire que dans cet état, nous sommes absolument incapables de prier. Mais prends courage, toi qui écoutes maintenant, et violente-toi, et ne crois pas qu'il te faille attendre de prier jusqu'à ce que ces pensées et ces mouvements de convoitise et de vengeance se soient retirés de ton âme. Mais dans le temps que tu sens que la tentation est dans sa plus grande violence et que tu crois être le plus mal disposé à la prière, alors va, retire-toi dans un lieu à part et adresse-toi à Dieu le Père, la prière, tout simplement la prière dominicale, ou ce que tu pourras dire contre les tentations et les suggestions du malin, et tu sentiras la tentation se ralentir, et Satan se retirera de toi tout confus. Celui qui croit qu'il faille attendre de prier jusqu'à ce que l'esprit soit délivré de ses mouvements coupables par sa propre sagesse et ses précautions, aide et fortifie Satan, qui n'est déjà que trop fort, de sorte que ce ne peut être qu'une doctrine païenne, trompeuse et diabolique, qui peut conseiller de telles choses à une âme tentée, à laquelle il faut opposer la doctrine de ce psaume, excellent exemple, qui montre que David, quoique il a eu la plus complète vue de toute son impureté et de toute la souillure de sa nature, ne se retire point et ne s'enfuit point de devant Dieu, comme l'apôtre Pierre, qui disait à Jésus-Christ: « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur, mais qui, dans une forte confiance en la miséricorde de son Créateur, éclate en une prière ardente et dit: « Ô Dieu, puisque je suis un si malheureux pécheur, aie pitié de moi. » Car c'est quand nos cœurs sentent le plus le péché que nous devons le plus nous approcher de Dieu par la prière. Avant d'accomplir le péché, il faut fuir. Il faut avoir Dieu devant les yeux, afin d'éviter de tomber dans le péché. Mais après le péché commis, il faut demander, espérer le pardon et ne pas rester dans des sentiments et des pensées de pure colère et de crainte. Car voici ce que Satan fait. Avant que nous accomplissions le péché, il nous rassure. Il nous jette dans la sécurité. Il ôte devant nos yeux la crainte de Dieu. Mais après que nous l'avons commis, il tâche de nous remplir de crainte, de désespoir et de toute défiance en la miséricorde de Dieu. Voyez donc comment David, à son recours, a vraiment à son recours à la miséricorde de Dieu quand il dit « Aie pitié de moi ». Comme s'il voulait dire « Oh, je sais que je suis méchant et je suis indigne, un indigne pécheur, et que toi, tu es juste et saint. Mais ce qui fait que j'ose te prier et m'élever à toi, c'est la confiance que j'ai en ta parole et en tes promesses, car je sais que tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir aux orgueilleux hypocrites et en ceux qui se glorifient de leur propre justice, de leur propre sagesse et puissance, mais que tu es le Dieu de nos pères qui a promis d'aider et de délivrer les pécheurs, non toutes sortes de pécheurs, mais tous les pécheurs qui reconnaîtront et qui sentiront leurs péchés. Prenons donc nous aussi, chers amis, courage et enhardissons-nous avec David à dire « Ô Dieu, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Je suis tenté par la chair et le sang et par beaucoup de mouvements de colère, de haine et d'autres passions. Mais j'ai mon recours à cette miséricorde et à cette bonté dont tu as promis de favoriser ceux qui auraient faim et soif de ta justice. Ah, je ne puis pas exprimer la chose aussi bien que je le souhaiterais, mais l'expérience vous apprendra plus que je ne puis vous le dire. C'est elle qui vous apprendra quel travail et quelle angoisse d'âme il faut soutenir. Oui, pour surmonter cette haute montagne de nos péchés et de notre propre indignité qui semble se mettre en nous et Dieu quand nous voulons prier. Parce que notre péché se met, et je le répète, entre nous et Dieu. Surtout quand nous voulons nous approcher de lui pour prier. Quoique nous ayons sujet en ces occasions de reconnaître l'infirmité et la faiblesse de notre foi, nous devons pourtant tenir ferme cette consolation que dans ces combats-là, nous ne disons pas tout seul. Non, nous ne disons pas tout seul, ô Dieu, aie pitié de moi. Mais que l'Esprit Saint de Dieu le crie aussi. Il le crie en nous et avec nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer, lesquels soupirs, quoique nous ne les voyons pas et ne les connaissons pas, ils sont une réalité dont la confiance en ce puissant intercesseur, nous devons au milieu de la plus grande ardeur du combat et dans le plus fort de la tentation, résister courageusement à Satan en lui disant « Il est vrai que je suis un pécheur, mais qu'en est-il? Dieu est plein de miséricorde. Si mes péchés me rendent indigne de prier, eh bien, que je sois indigne, mais j'ai de là d'autant plus sujet de prier, parce que je suis vraiment, et je le reconnais, un pécheur. Voilà donc, chers amis, une sainte audace que les pécheurs qui sentent leur péché doivent avoir, afin qu'ils sachent comment un Dieu juste et un homme pécheur peuvent venir ensemble et qu'ils apprennent à ne point fuir de devant Dieu au sentiment de leur péché, mais à prier et à chanter avec David « Aie pitié de moi, ô Dieu !» Oui, aie pitié, car c'est par là que Dieu et l'homme pécheur, l'homme pécheur, se rapprochent et qu'ils peuvent être réconciliés. Sans cela, non seulement nous ne pourrons jamais chanter ce psaume, mais nous ne pourrons jamais non plus dire la prière dominicale, parce qu'il n'arrivera jamais dans cette vie que nous soyons parfaitement nets de tout péché, car quand même nous serions exempts de péché actuel et extérieur, eh bien pourtant le péché originel sera toujours en nous et il nous souillera puisque nous sommes toujours pécheurs. Il faut donc toujours prier ainsi que le font les vrais chrétiens parce que se sentant sans cesse leur indignité, ils demandent qu'elle leur soit pardonnée et qu'ils en soient entièrement délivré. Ces continuels soupirs, on peut dire soupirs du cœur des enfants de Dieu, sont quelquefois cachés sous beaucoup de pensées, de tentations et d'occupations. Et malgré qu'on ne les voit et qu'on ne les connaisse souvent pas, ils ne laissent pas de monter, oui, jusqu'à Dieu. Et c'est sans doute là une véritable science et une qualité divine de pouvoir ainsi accabler le péché par la prière. Et lorsque nous sentons le plus notre indignité d'avoir tout simplement recours à ce cantique de pénitence, de repentance, je veux dire en langue moderne, ô Dieu, aie pitié de moi. Après avoir assez montré, à mon avis, comment Dieu et l'homme pécheur peuvent se rejoindre, il faut aussi vous avertir de faire une attention particulière sur ce mot « aie pitié ». Car si nous le considérons bien, nous serons portés à reconnaître et à conclure que toute notre vie est comme renfermée dans le sein de la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous renfermés dans ces mots de moi. C'est-à-dire que nous sommes tous de pauvres pécheurs. D'où il suit que tout ce que nous sommes et tous les biens dont nous jouissons sont en effet de la pure grâce et de la pure miséricorde de Dieu et non pas de notre justice et de notre mérite. Mais que répondez-vous quand on vous demandera « Est-ce donc que le décalogue ne doit point être observé ?» Et si on l'observe, n'est-ce pas là une justice absolue? Répondez à cela, oui. Nous voulons observer les commandements de Dieu et le décalogue, bien entendu. Mais dans un sens évangélique, parce que nous n'avons encore reçu que les prémices de l'Esprit Saint, lequel soupire et gémit dans nos cœurs. D'ailleurs, la chair avec ses convoitises et avec ses affections et ce méchant arbre de corruption sont encore dans nous. Ce qui est la cause que la loi de Dieu ne peut pas être accomplie dans toute son étendue et dans toute sa rigueur. Car si nous la pouvions ainsi parfaitement accomplir, de quoi servirait cette justice que Dieu cherche par ses paroles qui disent « Ô Dieu, aie pitié de moi ». Il est vrai que les restes du péché sont encore dans les saints et que le péché n'est jamais parfaitement ôté et aboli. Voici ce qui arrive, c'est que par la force de l'Esprit Saint de Dieu, nous résistons au péché et que nous observons les commandements de Dieu, mais aussi s'il arrive que par les combats et les tentations de la chair et du diable, et j'ajoute les démons, nous tombions, eh bien nous espérons le pardon et la rémission. Dans la loi lévitique, l'obéissance qu'on lui devait rendre, c'était de sacrifier, et pourtant, nous verrons ici dessous que David dit « Tu n'as point voulu de sacrifice et les holocaustes ne te sont point agréables. » De sorte que les sacrifices devaient avoir lieu, mais sans préjudice de la miséricorde. De même, nous observons la loi et les commandements de Dieu par les forces du Saint-Esprit. Et pourtant, oui, pourtant, cela n'empêche pas que nous ne disons avec David « Aie pitié », c'est-à-dire que nous demeurons pourtant encore pécheurs et que nous avons besoin de la rémission gratuite de nos péchés par les mérites de Jésus. Ainsi, la miséricorde est notre véritable vie jusqu'à la mort. Et pourtant, les chrétiens rendent une obéissance à la loi, mais une obéissance imparfaite à cause du péché qui est encore en eux. Apprenons donc bien à donner à ce mot « aie pitié » toute l'étendue qu'il doit avoir, que nous n'y concevions pas seulement les péchés actuels et grossiers, mais que nous sachions aussi que les bienfaits et les grâces de Dieu y sont compris, c'est-à-dire que nous sachions que nous sommes justes par le mérite d'un autre et que nous avons en cet autre un Père favorable, et que Dieu, pour l'amour de cet autre, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ, aime les pécheurs qui sentent leurs péchés. En un mot, apprenons que toute notre vie a besoin de miséricorde, puisque toute notre vie n'est que péché, et que par conséquent, elle ne peut pas en elle-même soutenir le jugement de Dieu. C'est pourquoi David ne dit pas seulement « Ô Dieu, aie pitié de moi », mais il ajoute « selon la grandeur de tes compassions. Je répète, selon la grandeur de tes compassions, sans dire un mot de ses mérites et de la justice de ses œuvres. Il ne dit pas comme ce pharisien de l'Évangile, « Je jeûne deux fois la semaine ». Il ne dit pas non plus « Aie pitié de moi selon mes mérites » ou « Selon ma dignité » ou « Selon ma droiture » car qu'on a affaire à ces choses-là avec la miséricorde, c'est le fait des hypocrites de vanter leurs mérites comme on lit du frère d'un certain roi qui à l'article de la mort disait à Dieu, « Garde-moi ce que tu m'as promis, puisque je t'ai rendu ce que tu m'as commandé. Je ne voudrais pas que ce fût là ma dernière parole à l'article de la mort. J'aimerais mieux dire avec David, « Ô Éternel, s'il te plaît, n'entre point en jugement avec ton serviteur. Et encore, ô Dieu, efface mes iniquités. » Et nous le voyons aussi garder le silence sur toute sa propre justice. Il n'a recours uniquement que aux grandes compassions et aux gratuités de Dieu. C'est ainsi qu'il se dépouille de sa propre justice et qu'il se sort de dessous le fardeau de la colère de Dieu, ne se proposant aucune autre vue que celle de la miséricorde de Dieu, et n'envisageant qu'un Dieu propice, doux, affable et plein de charité pour lui. Car il s'assurait, par la force de l'Esprit-Saint de Dieu, que Dieu avait une très grande miséricorde selon laquelle il ne pensait qu'à pardonner et à faire du bien. Cette vue d'un Dieu qui fait miséricorde est une douce vue qui couvre tout ce qui peut être renfermé sous ces mots de moi et qui donne la force de détourner la vue de dessous de dessus la colère, pour dire avec confiance, « Oh oui, Dieu est propice, Dieu me fait grâce. » C'est là une théologie, non de la raison, qui ne peut conduire qu'au désespoir, mais c'est une théologie de l'Esprit-Saint de Dieu, que David avait apprise, lequel, au milieu du sentiment de ses péchés, et de la colère de Dieu, prend la hardiesse de dire à Dieu, « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Voilà donc une science que la nature et que la raison ignorent, et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous l'apprendre et qui l'enseigne, comme nous voyons qu'il le fait dans ce psaume, car toutes les paroles y sont posées avec beaucoup de sagesse et de précaution, et ce sont toutes des paroles de vie, desquelles les âmes éclairées apprennent à faire différence entre pécheur et pécheur, entre Dieu et Dieu, et desquelles ils apprennent à joindre et à concilier Dieu courroucé en colère, et l'homme pécheur. C'est là la véritable théologie qui nous enseigne le vrai Dieu et le vrai service de Dieu. Mais c'est une fausse théologie que celle qui enseigne à ceux qui sentent et reconnaissent leur péché que Dieu est un Dieu sans aucune miséricorde. Car il ne s'y trouve point un tel Dieu, ni au ciel, ni en aucun endroit, mais c'est la production et l'idole du cœur pervers de l'homme, parce que le véritable Dieu dit « Je ne veux point la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » C'est ce qui se confirme par l'exemple que nous avons ici en David. Nous avons averti qu'il ne fallait pas appliquer ce psaume à David seulement, mais qu'il contenait une doctrine générale et universelle qui doit être appliquée à tous les hommes sans aucune exception. C'est aussi l'usage qu'en fait l'Épître aux Romains, qui fait une application générale de ce que dit ce psaume à tous les hommes et qui cite d'autres passages des psaumes pour prouver des doctrines générales comme tout homme est menteur. Dieu a tout renfermé sous la malédiction afin qu'il fît miséricorde à tous. Notez Romains chapitre 3 et le chapitre 11. C'est aussi de la sorte que David veut, il veut non seulement dépeindre son péché, mais il veut faire voir la misère et la mort de tout le genre humain. De sorte que nous pouvons conclure que Dieu est pour tous les hommes le même Dieu qu'il a été pour David, c'est-à-dire un Dieu qui pardonne les péchés et qui fait miséricorde à tous ceux, je répète à tous ceux, dans un sincère et vif sentiment de leurs péchés, demandant tout simplement miséricorde. C'est aussi à quoi se rapporte cette répétition que David fait, ou plutôt cette amplification de la grâce de son Dieu, quand il ajoute « Et selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. » Je répète, « Et selon la grandeur de tes compassions, s'il te plaît, efface tous mes forfaits. » Il avait demandé auparavant à que Dieu, par sa miséricorde, voulût détourner les yeux de ses péchés. Et ici, il demande la même chose, avec une violence et une ardeur d'esprit plus grande et plus pénétrante. Il embrasse Dieu dans ses promesses et il se tourne avec toutes les forces de son âme vers la miséricorde, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas l'assistance du Saint-Esprit, embrasser et envisager ce Dieu qui se fait connaître dans ses promesses, et s'il n'avait été assuré qu'il y avait pardon par-devers Dieu pour les pécheurs pénitents, pour tous les pécheurs qui se repentent, comme il dit dans un autre psaume, il y a pardon par-devers toi, afin que tu sois craint. Psaume 130. Il ne cherche point à offrir de satisfaction, ni à se retirer en quelque coin pour se préparer aux opérations de la grâce, mais il va tout droit à Dieu et à sa miséricorde qui lui est connue, non par les imaginations de son propre cœur, non par le dictamen de sa propre raison, parce que la raison, lorsque l'homme sent le péché, fuit devant Dieu, et que la conscience, par les forces naturelles, ne peut pas venir jusqu'à ce degré de lumière, qu'elle s'assure qu'il qu'il y a encore par devers Dieu un reste de faveur, de grâce, un reste miséricorde pour tous les pécheurs. Mais cette miséricorde lui est connue par les promesses qui sont semées partout, même jusque dans le décalogue, car quoique Dieu y menace les pécheurs, il s'y donne pourtant le titre de Dieu qui est miséricordieux. C'est ce que prouvent aussi les promesses qui ont été faites à Adam, ainsi qu'à Abraham et tous les autres saints. Amen. Chers amis, nous continuerons cette difficile et très importante série demain matin, Dieu voulant. Avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Ce que l'on entend par la conversion n'est souvent que la découverte du grand ami, Jésus. Ce que l'on entend par la religion et la connaissance de ce grand ami, Jésus. Ce que l'on entend par la sainteté et l'imitation du grand ami ou la conformité de vos deux vies, la perfection, cette perfection à laquelle Jésus appelait, il a appelé tous les hommes et il leur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Saint Matthieu chapitre 5, verset 48. Ceci consiste en somme à être comme votre grand ami afin de devenir à votre tour un ami semblable pour les autres. Jésus est votre ami. Songez un peu à tout ce que signifient les termes d'ami et de sauveur. Un ami est toujours disposé à venir en aide. Il prévient vos besoins. Il s'avance la main tendue pour soutenir et encourager ou pour écarter le danger. Sa voix est celle de la tendresse qui trouve les mots pour détendre les nerfs qui sont fatigués et pour rassurer l'âme agitée et envahie par la peur. Pensez à ce que est pour vous tel ami et tâchez de vous représenter ce que doit être l'ami parfait, oui, celui que rien ne décourage, qui se donne sans réserve, qui a triomphé de tout et qui peut tout. Jésus-Christ est pour vous cet ami-là. Il l'est même au-delà de ce que peut attendre votre cœur. Si Jésus-Christ annonçait dans son royaume les doctrines enseignées par vos églises, bien souvent, elles resteraient sans écho. Mais tous, dans mon royaume, comprennent, je veux dire tous dans le royaume de Jésus-Christ, comprennent et aiment, pour en vivre les règles très simples que Jésus donnait à ses disciples. Donc, en toute chose, tendez à la simplicité. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, nos âmes doivent se recueillir en ta sainte présence lorsque nous nous prosternons devant toi, mais nous sommes tellement captivés par les objets et les intérêts de cette terre que nous pouvons à peine en détourner notre attention. Et cependant, cette terre est-elle donc le lieu pour lequel nous sommes faits? N'y sommes-nous pas étrangers et voyageurs? L'homme dans la force de l'âge, la jeune fille, le petit enfant, ne se trouve-t-il pas appelé en même temps que le vieillard à quitter cette vie? Pouvons-nous donc être si légers, si inconscients, si peu sérieux? Nous devons te prier, ô Dieu, de bonté, de nous rendre plus attentifs à tout ce qui concerne notre éternelle destinée, d'avoir plus de zèle pour te servir, car c'est ici le temps où nous pouvons travailler à notre salut. Veuille donc nous déprendre de tant de vaines préoccupations, de tant d'affections qui ne sont point épurées et sanctifiées par ton amour, de tant d'intérêts futiles. Rappelle-nous et fais-nous sentir que trop souvent, même en riant, le cœur est triste lorsque on apprend au monde, tandis que pour tes enfants et pour tes rachetés, là, Seigneur, il y a de la joie même, il y a de la joie même dans les larmes. Le sentiment de ta présence, la pensée de la brièveté de notre vie et l'attente de ton jugement redouble peuvent seuls nous rendre véritablement sérieux. Et lorsque nous le serons devenus, nous nous sentirons pressés de chercher dans ta miséricorde toute gratuite, dans le pardon que Christ nous a obtenu au prix de toutes ses souffrances et de sa mort, les assurances dans lesquelles l'âme ne peut connaître la paix. Bénis-nous, ô Dieu, en élevant nos cœurs et nos âmes à toi. Exauce les prières que nous t'adressons pour nos parents et nos amis. Aie pitié de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui pleurent, de tous ceux qui ne sont point encore soumis à toi, et que à toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Et chers amis, j'aimerais encore vous transmettre un ou deux chants d'un assez lointain passé. 1962. Bien sûr qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les mêmes moyens pour enregistrer. J'ai fait cela comme j'ai pu. Et aussi, vu le temps qui s'est écoulé, plus d'un demi-siècle, il se peut que les paroles ne sont plus terriblement audibles. Mais l'Esprit Saint s'y trouve et vous transmettra quelque chose tout de même. Et rappelez-vous que Dieu vous aime. Et c'est mon devoir de vous aimer tous. Ou si je vous embrasse maintenant et je vous enlace, et je vous embrasse tous avec tout mon amour, et je vous dis, soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant.
Wonderful is Jesus, the Master's King. Wonderful of praise, to Him we sing. Wonderful of praise, unto whom we cling. On the way to glory, our Lord is leading us to glory. Oh, so wonderful is Jesus, Savior. Wonderful is Christ. Wonderful is Christ. Leading us to realms of glory, singing as we go. Make known the love that made us free, that made us free forever. Wonderful salvation He is offering to all.
Yes, the Lord is
offering to all.
He is
offering to all. Wonderful is He who leads us lovingly above. Wonderful, wonderful, wonderful is He.
Many years ago.
in a time of woe, to the Savior a promise you gave. If he just would show you the way to go, you'd receive him, your soul to save. Will you keep that vow to the Savior now? The old promise that was broken somehow. So before him bow and his will allow. Will you keep that vow? In a time of pain, when all hope seemed vain, you remember that promise to God. With your life sustained and your health regained, you would serve him at home or abroad. Will you keep that vow to the Savior now? The old promise that was broken somehow. So before him bow and his will allow. Will you keep, will you keep that?
We sing a little.
The promise of the Lord is sure that he is coming soon. There are signs on earth around us, in the skies and in the moon. Lift up your heads, you saints of God, the battle's almost won. The Lord is on his way.
Protect his own through every when we